Vous écoutez Radio Bonheur. On parle foot ce soir sur Radio Bonheur comme chaque lundi soir. Le magazine des déchaînés du football, 19h06. On est en direct ce soir avec Gaëtan. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Dominique, bonsoir à tous.
Pierre-Henri Dufay, notre autre footeux, est là également. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, Gaëtan, bonsoir à toutes bonsoir. Et à tous.
Alors, pas de match pro ce week-end, puisque c'était une trêve internationale, puisque l'équipe de France joue ce week-end, jouait et va jouer encore. Et donc, ce sont des matchs amicaux, hein, bon, mais voilà. En tout cas, c'est la trêve pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, donc pas de Brest, pas de Guingamp, pas de Lorient ce week-end, même si nous allons parler évidemment de ces clubs, mais pas de match en tout cas ce week-end. Par contre, on aura l'occasion de parler des autres championnats amateurs et notamment de la 3e division avec le championnat de national, avec notamment Concarneau et Saint-Brieuc qui sont les deux clubs que nous suivons en national.
Oui. Fortune diverse hein, d'ailleurs ce week-end Gaëtan.
Oui, parce que bon, pour Saint-Brieuc ça continue de cartonner hein, avec cette série de victoires qui se poursuit, 2-0 encore vendredi soir contre Sedan. Pour Concarneau en revanche c'est un peu plus délicat parce que ça fait désormais 5 matchs de rang sans victoire, alors une seule défaite mais 4 matchs nuls dont un à 7 qui joue son maintien vendredi soir alors que Concarneau menait 1-0. Donc bon, ça c'est un petit peu moins bien parce que du coup, on voit que ça se resserre très clairement dans ce haut du panier. Malgré tout, Concarneau est toujours nettement dans la course, évidemment, pour la montée en Ligue 2.
On en parlera donc tout à l'heure hein, de Concarneau, on parlera de Saint-Brieuc aussi, mais juste avant, vous le savez, nous sommes dans la partie Brest, la partie Finistère du magazine. Alors, on va commencer par un ancien Brestois. Les supporters se souviennent sans doute de ce nom, ce joueur qui était arrivé en Ligue 1 lors de la saison 2011-2012. Il avait connu notamment la descente, on reviendra sur ce moment avec lui, c'est Tripi Makonda. Bonsoir Tripi.
Bonsoir.
Alors, on rappelle votre période brestoise. Tripi, vous êtes resté de juillet 2011 à janvier 2015. Vous avez joué 53 matchs avec le Stade Brestois 29 et notamment une quinzaine de matchs en Ligue 1 entre 2011 et 2013. Première question avant de se replonger dans votre carrière brestoise. Que devenez-vous, Tripi, aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, ce que je deviens, j'ai arrêté le foot. J'ai arrêté ma carrière en juin, donc cet été. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir eu des opportunités très rapidement, notamment dans le consultant pour commenter des matchs, qui me permettent de commenter sur plusieurs chaînes, que ce soit pour Canal Plus Afrique, que ce soit pour RMC Sport sur les matchs portugais, et sur PSG Twitch sur l'actualité du PSG.
Ouais, est-ce que vous êtes très très attaché hein, évidemment à votre club formateur. Vous arrivez d'ailleurs du PSG à Brest à l'été 2011. Vous aviez joué quelques petits matchs de Ligue 1, 9 matchs de Ligue 1 avec Paris, quelques matchs aussi de Coupe d'Europe. À l'époque, en juillet 2011, c'est la deuxième saison de Brest en Ligue 1 à ce moment-là. Qu'est-ce que Brest représentait pour vous ?
Brest représentait une équipe qui venait de monter en... Que moi j'ai connu quand ils sont montés en première division, qu'ils ont fait ces fameuses épopées un peu en termes de journée, de rester première pendant quelques journées et bien longtemps. Et notamment j'avais un joueur qui évoluait là-bas, c'était Grandi Ngoy, qui a aussi évolué au Stade Brestois et qui me donnait pas mal de conseils et des nouvelles du Stade Brestois. Et en fait j'aimais bien aussi ce stade un peu british, cette ambiance un peu british. Le fait que les tribunes soient très rapprochées, que le public aussi soit chaleureux, c'est ça qui m'a poussé à signer au Stade Brestois.
Il n'y avait pas trop de différence entre le grand PSG, alors c'était pas encore celui de maintenant.
Non, pas encore.
Et le Stade Brestois, en quoi vous avez vu ces petites différences-là à votre arrivée ?
Après, forcément, la différence se joue au niveau mental. Le Paris Saint-Germain jouait au tableau, donc forcément dans une mentalité assez positive. Et le Stade Brestois, malgré que leur année de montée, ils arrivent à rester premiers et se sont maintenus à la fin, bon, on est dans une mentalité où on est plus un peu dans la survie. Donc c'est plus sur ça en fait que ça change et sur les charges de travail. On travaille beaucoup plus à Brest qu'au PSG. Au PSG, c'est des joueurs qui sont plus dans l'entretien, alors qu'à Brest, on est vraiment dans cette survie de développement pour pouvoir grappiller des points le plus rapidement possible. C'est vraiment la performance qui prime.
Alors, on regarde votre parcours brestois, notamment en Ligue 1, Tripi, et on voit une longue absence, notamment la première saison, entre le 25 septembre et le 24 mars. Presque 6 mois, donc, d'absence. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là et comment vous expliquez le fait que vous n'avez pas réussi à enchaîner les matchs en Ligue 1 ?
Bah, c'était très compliqué. Je suis arrivé dans une période, comme vous l'avez dit en début dans ma description, je suis arrivé en juillet 2011, mais je suis arrivé une semaine avant que le championnat de Ligue 1 reprenne. Donc forcément, le groupe brestois avait déjà des repères, avait déjà une tactique et un plan de jeu bien défini et une ossature en termes de joueurs. Où les automatismes étaient déjà créés. Donc moi, quand j'arrive, je suis dans une optique de pouvoir jouer le plus vite possible, ce qui est normal, parce que j'aspire à certains objectifs fixés. Mais c'est vrai qu'avec Dupont, à ce moment-là, l'entente n'était pas au bout fixe. Et ça, je peux le comprendre, parce qu'il était vraiment dans une dynamique de performance. Et il arrive à un moment donné où, quand on joue contre Ajaccio, et là, je suis latéral gauche à ce moment-là, et j'ai fait, on va dire, une erreur de jeunesse, comme lui l'a très bien rappelé sur RTL, où je mets une passe en arrière, et c'est Soucrier qui marque derrière, alors que le match était très important, même si le score final était de 1 partout, mais il nous fallait cette victoire. Et à partir de ce moment-là, je tombe dans une dépression, où pendant 6 mois, je n'arrive pas à me relever mentalement, donc c'est un zombie quand j'arrive à l'entraînement, j'arrive plus trop à faire de passes, je ne trouve plus, on va dire, goût au football. Et ça, c'est pour ça que forcément, le coach ne me fait pas jouer parce qu'il a besoin de joueurs prêts à jouer et aussi fiables.
Et comment vous avez réussi à remonter la pente ? Seul, accompagné, comment ça s'est passé ?
Bah, seul. Déjà, mon grand frère est venu habiter avec moi. Donc ça apporte un plus au niveau du cercle familial. Et puis après, seul, donc j'ai remis tout à plat. Et la première question que je me suis posée, c'est pourquoi je fais du foot ? Parce que c'est vrai, quand on est joueur de sportif de haut niveau, on est plus dans l'enjeu que dans le plaisir. Et j'avais perdu ce plaisir-là, et très omnibulé par l'enjeu et le classement. Et le fait de retrouver ce plaisir qui m'avait manqué, le travail et cette humilité qui avait un petit peu disparu, et ça je le reconnais terriblement, c'est aussi ce manque d'humilité qui a fait que je n'ai pas joué longtemps au Stade Brestois, notamment dans ma première année. Mais voilà, c'est un travail de longue année, et c'est vraiment au niveau psychologique que j'ai travaillé.
C'est intéressant, en plus, votre témoignage dans une période où on voit de plus en plus de langues se délier. On a vu la semaine dernière Paul Pogba en parler, notamment après sa victoire en Coupe du Monde. C'est important aujourd'hui de parler de ce genre de choses, que les langues se délient ?
Tout à fait, c'est important parce que, en fait, le problème qu'on a aussi, ça, c'est aussi un terme de société, mais je me catégorise pas comme un. Je ne suis pas. Enfin, comment expliquer ? C'est que quand quelqu'un va me poser la question, Tripi, qu'est-ce que tu fais ? Automatiquement, je vais dire, je suis footballeur. Alors que non, je ne suis pas footballeur, je pratique du football. Et ça, en fait, ça a apporté un peu d'humanisme dans le cercle sportif. Parce qu'au final, nous sommes joueurs de haut niveau, sportifs de haut niveau, joueurs, joueuses de haut niveau. Mais avant tout, nous sommes des êtres humains. Et nous avons des petits problèmes, comme chaque être humain, dans sa journée. Et c'est un peu ça qui fait la différence aujourd'hui, que les personnes arrivent à exprimer et à verbaliser leurs problèmes qu'ils peuvent avoir au niveau sportif et notamment dans les performances que ces joueurs et joueuses peuvent faire. Mais c'est d'apporter un peu cette humanité dans le football, dans le sport en général, pour que les gens aussi, les supporters, arrivent à dédramatiser un petit peu de ce qui se passe en termes d'enjeux.
Ouais, on voit, il y a tellement d'enjeux, vous le dites, et puis il y a aussi... Parfois, on voit ce genre de réaction par rapport à l'argent. Les gens se disent, mais il gagne trop bien sa vie pour être déprimé. C'est ça aussi qui freine un peu la parole, vous pensez ?
Tout à fait, tout à fait. Comme je le dis bien, c'est pas parce qu'on touche des sommes astronomiques. Et il faut savoir que ces sommes astronomiques, c'est qu'entre 2 et 3% de joueurs joueuses de haut niveau. Le reste, il faut savoir que le reste des footballeurs, footballeuses, moi qui joue au Portugal, j'avais des joueurs qui touchaient 900 euros ou des fois le SMIC. Vous allez au Luxembourg qui est un championnat semi-professionnel, ben les joueurs touchent le SMIC du Luxembourg. Donc c'est vrai qu'on voit pas mal de joueurs, et c'est normal, c'est un peu les strass et paillettes, des joueurs, que ce soit Neymar, que ce soit Mbappé, mais il y a l'envers du décor du football, on va dire basique, où les joueurs ne touchent pas des sommes astronomiques. Donc ils ont aussi les galères du quotidien que dans la société, certaines personnes peuvent avoir.
Pour revenir sur votre époque brestoise, notamment la deuxième partie de saison, et on vous a invité notamment pour ça, parce que on le sent à travers les Brestois actuels, notamment à travers le coach Michel Derzakarian, il y a un peu d'inquiétude par rapport au fait que Brest soit un peu trop tranquille au classement. Et vous avez connu un peu la même situation lors de votre deuxième saison, puisque en février-mars, on pensait le maintien tout proche pour Brest, et puis vous enquillez, en tout cas l'équipe enquille 11 défaites sur les 11 derniers matchs. Vous participez aux 4 derniers. Quel souvenir vous gardez de cette période-là où Brest s'est effondré au classement?
C'est compliqué parce qu'on est on était dans le ventre mou, mais c'est vrai que la motivation intrinsèque des joueurs n'était plus au rendez-vous parce qu'on était confortable dans le classement. Et forcément, quand on regarde derrière, on pensait ne pas se faire rattraper d'aussitôt. Mais comme on dit, c'est à la fin qu'on compte le résultat. Et c'est vraiment dans la finalité qu'on a pris conscience que ça pouvait être très compliqué pour nous, et notamment de faire descendre le Stade Brestois en deuxième division.
La prise de conscience, elle est arrivée trop tard?
Bien sûr, elle est arrivée trop tard. C'est ça qui est dommageable dans le football, c'est que en fait, les émotions, et notamment dans l'excès de confiance, quand on arrive à avoir un excès de confiance, on oublie un petit peu les rouages. Parce que c'est vrai que dans les victoires, on regarde beaucoup plus les victoires que les défaites. Et même dans les victoires, il y a des signes qui peuvent provoquer qu'il peut y avoir une potentielle défaite plus tard. Et ça, on n'a pas su les regarder, les identifier.
À quel moment vous avez senti, vous, de votre côté, que ça commençait à vaciller?
C'est dans le sprint final. Dans le sprint final, quand on voit certaines équipes du bas de classement commencer un petit peu à remonter et que nous, on n'arrive pas à faire la bascule, on n'arrive pas à avoir ce facteur chance pour pouvoir basculer dans le bon sens, forcément, après, il y a un quick.
Un mot sur l'équipe actuelle. Vous, demain, vous allez dans le vestiaire de Michel Derzakarian pour parler de votre vécu brestois. Qu'est-ce que vous dites aux joueurs qui sont confortables? Vous en parliez, qui sont dans une bonne position plutôt au classement. Mais quel petit message d'alerte vous pouvez leur adresser si jamais vous êtes face à eux aujourd'hui?
Déjà, de toujours se mettre des objectifs, fixer des objectifs intrinsèques, donc individuels, et après pour que ça puisse rejaillir aussi dans le collectif. Et de leur dire que vous ne jouez pas seul. Il y a des gens qui viennent au stade, il y a des gens qui s'abonnent, qui viennent voir du spectacle, qui viennent voir du plaisir. Et le simple fait de leur donner un petit peu de plaisir et de sourire, ça va leur donner beaucoup plus après dans leur vie de tous les jours. Et forcément, de prendre conscience qu'un match de football n'est jamais terminé. C'est toujours la 90e minute, mais même au-delà, parce qu'il y a d'autres matchs après qui suivent.
Eh bien, on espère que le message aura été entendu. Dernière question, Tripi Makonda, quelle est une anecdote qui vous revient par rapport à votre époque brestoise, Ligue 1 ou Ligue 2, parce que vous jouez aussi une saison et demie en Ligue 2 avec les Tizèf.
Alors, une anecdote, c'est vrai que j'en ai raconté une avec David Beckham, mais j'en ai une autre où on est en Ligue 1, et c'est Corentin Martins qui prend la place de, je ne sais plus si c'est Dupont ou de Chauvin, qui était entraîneur à ce moment-là. Et donc moi, j'étais dans le groupe et j'étais sur le banc. Et à un moment donné, Corentin Martins envoie certains joueurs à l'échauffement. Il en fait rentrer un au bout de 10 minutes et en fait, il n'envoie plus personne. Et je prends la décision d'aller m'échauffer. Je m'échauffe. Et au final, Corentin Martins me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai pris la décision de m'échauffer parce que voilà, je voyais qu'il n'y avait personne. Et 10 minutes après, je rentre. Donc comme quoi, prendre des décisions avec l'intuition, ça marche.
Eh bien, ouais, ça c'est étonnant, j'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tripi Makonda, pour votre témoignage fort aujourd'hui sur Radio Bonheur. À bientôt.
Merci.
Merci à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci.
Les déchaînés du football reviennent dans quelques instants, juste après les réclames.
On en parle. parle.
CAFPI est le pionnier et le leader du courtage en crédit immobilier en France. On en parle avec Karine Grostern, entrepreneur courtier chez CAFPI. Bonjour.
Bonjour.
Alors en quoi consiste votre métier chez CAFPI ?
Ma mission, c'est d'accompagner mes clients pour leur trouver la meilleure solution de financement pour leur crédit immobilier, le regroupement de leur crédit ou pour négocier leur assurance emprunteur. Ouais. Et ce qui me passionne, moi, c'est d'intervenir à un moment fort de la vie des gens, leur projet immobilier. C'est aussi d'être mon propre patron, être autonome, garder toute ma liberté d'action tout en étant accompagné par CAFPI.
Bien sûr. Et vous avez une anecdote à nous faire partager ?
Oui, par exemple, ce client que j'ai rencontré célibataire il y a 18 ans, que j'ai financé avec sa femme pour l'arrivée du premier enfant, et le mois dernier, que j'ai accompagné pour acheter une maison de campagne à 200 km de Paris.
Une belle histoire, merci Karine.
Pour découvrir l'agence la plus proche de chez vous, faire une simulation en ligne et concrétiser vos projets, une seule adresse, cafpi.fr. Courtier en opération de banques et assurances immatriculé à l'ORIAS, aucun versement ne peut être exigé avant l'obtention d'un prêt.
Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous cet oncle qui nous dit
« très très frais ».
Car les filets de lieu noir labellisés MSC arrivent dès demain chez Aldi à moins 25%, soit 1,94€ la barquette de 220 grammes. Oui, ce « très très frais » qui permettrait de préparer des petits plats plus responsables. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
8,82€ le kilo, pêché en Atlantique Nord-Est, une grande majorité des poissons vendus chez Aldi sont labellisés pêche durable ou aquaculture responsable. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr.
Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama.
Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons.
Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce.
Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail.
Ah, mais c'est très bien, ça.
Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr.
Les jours sensations Zalando.
Regarde, ma commande Zalando vient d'arriver.
Oh, toi t'as bien profité des jours sensations.
Avec des réductions jusqu'à moins 50%, difficile de résister.
Sur Zalando jusqu'au 10 avril, bénéficiez de remises jusqu'à moins 50% sur une sélection d'articles mode. Et profitez du service Essayez d'abord, payez après. Détail de l'offre sur Zalando.fr.
Chute de cheveux, manque de volume, cheveux fragilisés. Adopté par 9 femmes sur 10 l'ayant essayé, Mana et Cap Expert associent levure de bière, kératine et collagène pour la beauté et la santé de vos cheveux. Retrouvez Mana et Cap Expert en pharmacie. Manae, une marque VitaVea. Pour votre santé, évitez de grignoter.
19h23, merci d'écouter Radio Bonheur avec les déchaînés du football. Ce soir, en direct, on continue de parler maintenant de football et de Dinan Léon, club de CFA de National 3, ex-CFA 2.
Ouais, c'est ça, Dinan Léon, on aura l'entraîneur dans un instant, Stéphane Lamant, l'entraîneur de Dinan, qu'on va joindre maintenant. C'est vrai que c'est il n'y avait pas de match en National 3 ce week-end, il y en aura à nouveau le week-end prochain. Et Pierre, c'est vrai que bon, Dinan, on attendait parfois, sur certains matchs en tout cas, que ce soit peut-être un peu mieux, un peu plus haut dans le haut de tableau. Ils ont un peu chuté ces derniers temps.
Bah, ils ont surtout perdu leur dernier match contre Fougères, ce qui était le match entre guillemets un petit peu d'inauguration du nouveau Claude Gastel. On en parlera avec le coach dans quelques instants, parce qu'il y a aussi un gros match qui arrive pour Dinan Léon le week-end prochain à Pontivy. Ça sera tout simplement le 3e contre le 4e d'un championnat passionnant où il y a un gros paquet de prétendants derrière le leader Saint-Pierre Milizac. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Alors, un mot déjà sur ce week-end de pause. Il y en a eu quelques-uns quand même depuis le début de l'année 2022. Comment, à votre niveau, donc le cinquième niveau, le National 3, vous, entraîneur de Dinan Léon, vous gérez ce week-end sans match ?
Ouais, là, c'est assez compliqué, on va dire. On n'a rien fait ce week-end. On n'a pas eu un seul week-end entre fin juillet et Noël. Puisqu'avec les parcours que l'on a fait en Coupe de France, on a à peu près tous les week-ends. Et on a réattaqué le 8 janvier sans quasiment avoir de pause, puisque du coup, on a fini juste avant Noël et ils nous ont mis un match le 8 janvier. Donc, on a dû reprendre le 2 janvier, le lendemain du 31, pour finalement, après, avoir 3 week-ends de libre depuis le début de l'année. Et il en reste 2 encore. Donc, oui, c'est compliqué psychologiquement. Les joueurs, quand il n'y a pas de match, les faire venir, les matchs amicaux, etc. On a beaucoup de chance sur les 6 premiers mois. Donc là, je laisse un peu de souplesse. Le week-end, il n'y a pas de match. On charge un petit peu les semaines de travail et puis on laisse le repos, le week-end de repos.
Ouais, c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver dans ce championnat de National 3. Stéphane, est-ce que vous pouvez juste vous mettre dans un endroit où le réseau serait un tout petit peu meilleur, parce que ça serait magnifique pour nous de comprendre tous vos mots, parce que il y a un match intéressant qui arrive samedi prochain à la GSI Pontivy. Dans ce championnat, on le disait, est-ce qu'on se trompe en disant que ce championnat il est plus ouvert que jamais?
Ah bah non, vous trompez pas, non. Là, on peut pas dire mieux, puisque entre le deuxième et le huitième, il y a 2 points d'écart. Donc Mizac a pris une petite avance, hein, enfin une avance même confortable de 5 points à 8 journées de la fin. Et ensuite, entre le deuxième et le huitième, voire même le neuvième, puisque Fougères est pas très loin. Enfin bref, tout le monde peut finir sur le podium, et en tout cas, il y a encore au moins une dizaine d'équipes potentielles au podium. Donc à 8 journées de la fin, c'est quand même super rare.
Les confrontations directes, c'en est une ce week-end. Il y en aura d'autres d'ici la fin de saison, puisque vous devez notamment jouer Lannion ou la Saint-Pierre-Milizac encore dans cette fin de championnat. C'est là, selon vous, que ça va se jouer, ou il faudra d'autres ingrédients pour espérer la montée?
Bon, de toute façon, il ne nous reste plus quasiment que des confrontations directes, hein, parce que si on enlève Tréguin, qui est dernier, après, tous les autres matchs sont contre des équipes qui sont juste devant nous ou juste derrière nous. Après, voilà, notre championnat, il a été plutôt compliqué, notamment avec la Coupe de France, hein, au début, puisqu'on a gagné notre premier match que le 6 novembre. J'aime bien le rappeler quand même, puisque les gens oublient vite, sous prétexte qu'on a entendu parler ces derniers temps. Mais notre première victoire remonte au 6 novembre en championnat. Donc, voilà, après, nous, et ce que l'on veut, c'est avoir un maintien confortable, puisqu'on ne sait pas encore combien d'équipes descendront. C'est toujours le même problème en National 3. Mmh. Aujourd'hui, voilà, il y a 3-4 équipes qui semblent avoir décroché un petit peu, mais s'il devait y avoir plus de descentes que ça, là, la lutte serait acharnée, quoi.
C'est vrai, même si en N2, ça va un peu mieux quand même pour les clubs bretons. Ils ont remis d'autres clubs non bretons dans le paquet du maintien. On y reviendra d'ailleurs après 20h sur Radio Bonheur. Un mot sur le dernier match. Alors bon, il y a eu la défaite qui est venue après une belle série, hein, quand même pour vous, de 6 victoires et un nul en championnat. Mais surtout ce match qui marquait, eh bien, une nouvelle étape pour vous, puisque vous avez pu rejouer dans votre stade du Clos-Gastel avec une pelouse hybride, donc une meilleure installation, de meilleures conditions pour vous. C'était important, on le sentait, ça faisait des années. Vous nous avez parlé aussi de vos problèmes avec les... Parfois, il fallait jouer sur le stade annexe, sur le synthétique. Ça y est, vous sentez que là, le club a franchi enfin cette étape tant attendue en termes d'installation?
Oui, ben, en termes d'installation au niveau du match et des terrains d'honneur, effectivement, ça sera un réel plus pour tout le monde. Après, il faudra qu'on s'attelle aussi aux entraînements. Mais en tout cas, pour le match, voilà, tout le monde est très content. Ça va permettre d'avoir une pelouse de qualité. Et puis voilà, alors après par contre, bah, il y a cette défaite contre Fougères, vous l'avez dit, après une belle série, après on pouvait pas non plus tout gagner jusqu'à la fin. On était parti de loin. Par contre, j'espère que cette équipe de Fougères n'a pas instauré ce qui se passait avant régulièrement au Clos-Gastel, c'est-à-dire on est à 8 ou 9 derrière, on défend et puis on croise les doigts pour que ça se passe bien, puisque c'est ce qui s'est passé le week-end dernier avec une équipe de Fougères qui a beaucoup, beaucoup défendu, très bas, sans but. Et c'est vrai que c'est ce qu'on reprochait un petit peu, mais le terrain chez nous est grand. Et voilà, les équipes ont souvent l'habitude, je dirais la mauvaise habitude, mais non, puisqu'ils prennent des points, donc c'est une bonne habitude pour eux. Mais en tout cas, pour nous, ça ne l'est pas, de se regrouper un peu et de bien défendre contre quand ils viennent jouer chez nous. Donc voilà, on avait oublié ça un petit peu en jouant sur le Stade Annexe. Et cette mode-là était passée, en tout cas, on ne l'avait pas constaté. Et puis là, premier match, on revient sur le Clos-Gastel. On y a eu droit, donc j'espère qu'on va pas présager d'autres matchs de ce type-là.
Oui, et une dernière question, Stéphane, on regarde un petit peu le classement, les statistiques, le plan comptable. Vous êtes l'équipe qui compte le moins de défaites en championnat avec la Saint-Pierre-Milizac, vous êtes la meilleure défense. Quels sont les atouts de Dinan Léon pour pouvoir peut-être accrocher la montée en N2, même si le coach que vous êtes ne veut peut-être pas s'aventurer à parler de montée déjà à 8 matchs?
Ouais, non, je, honnêtement, sans faire de langue de bois, on jouera pas la montée. On n'a pas le groupe pour. On savait qu'on était sur une année un petit peu de transition après ces 2 années de Covid. Pour faire simple, j'ai 17 joueurs plus 2 gardiens, ce qui se voit jamais à ce niveau-là. Il n'y a pas des groupes en dessous de 20, 21, voire 22 joueurs.
Moi, je suis à 17+2, donc on est sur un groupe assez restreint. Après, justement, bah, du coup, on n'a pas perdu beaucoup. C'est une de nos forces, mais en même temps, on n'a pas gagné suffisamment puisqu'on a fait beaucoup de matchs nuls. On a commencé le championnat avec 6 matchs nuls. Donc, à partir du moment où vous commencez comme ça, le championnat, il est presque plié. Donc voilà, non, l'idée, c'est de bien terminer. Il reste 8 matchs, c'est des matchs super intéressants à jouer. Et j'aimerais bien que, du coup, entre le début de l'année où on a eu la coupe, à jouer beaucoup de matchs à enjeu, etc., on n'a pas pu profiter pleinement de prendre du plaisir sur nos matchs, etc., de travailler un peu différemment. Et moi, j'ai envie de donner cette connotation-là là, sur la fin de saison, sur les 8 derniers matchs, pour qu'on puisse prendre un petit peu plus de plaisir, tenter des choses un petit peu nouvelles, donner du temps de jeu à tout le monde et voilà, et que les 19... Que les 19 mecs du groupe puissent s'épanouir pleinement d'ici le 4 juin.
Eh bien, on vous souhaite de prendre du plaisir dans cette fin de saison. Par contre, on a gardé la bande pour le début de votre réponse. Si jamais vous êtes plus haut que prévu, on la ressortira, Stéphane, avec plaisir.
Ah ouais, mais c'est difficile. Quand on gagne le premier match au mois de novembre, après, le retard est tel que, oui, sur la dynamique du moment, on aurait pu se dire, non, on va être encore là-haut, puisque ça fait 5 ans ou 6 ans qu'on est toujours dans le top 5. Là, j'y crois un petit peu moins cette année, non pas par rapport à la qualité, mais par rapport à toutes les circonstances qu'il y a eu depuis le début. Et puis, on a profité du parcours de coupe aussi, qui a été extraordinaire. On peut pas être sur tous les tableaux avec un effectif aussi restreint. Et du coup, aujourd'hui, on va profiter et puis essayer d'avoir un bon maintien. Ça, c'est parce que c'est pas encore gagné, comme on l'a dit tout à l'heure. Je sais pas qui s'est désolé derrière moi en National 2, mais Hitler qui gagne bien leur match et puis ils descendent pas, ça serait une bonne chose. Et
on a Guingamp qui s'est mis un peu à l'abri là.
Ouais, ça va, bon, c'est Guingamp, mais il faudrait les Malouins assurent définitivement leur maintien et puis qu'après, entre Plabennec et Vitré, et on a l'idée qu'ils fassent un exploit pour aller se maintenir aussi. Et la fête serait belle, puisqu'a priori, le maintien serait pas long d'être assuré pour nous, du coup, ce serait synonyme de ça. Et voilà, comme je l'ai dit, on pourrait finir plus sereinement pour essayer de jouer davantage, de proposer autre chose par rapport à ce que l'on a fait ces derniers temps.
Le message est passé. Merci beaucoup, Stéphane Lamont. Bonne soirée,
merci.
À bientôt.
Merci. À bientôt, au
revoir. Bonsoir, merci. Merci d'écouter Radio Bonheur. Chaque semaine, Radio Bonheur est écoutée par 217 000 personnes en Bretagne. Sondage Médiamétrie, Média Local. En habitude d'écoute, 217 000 personnes auditoires semaine. Radio Bonheur en Bretagne, septembre 2020 à juin 2021, du lundi au vendredi, 13 ans et plus. Radio Bonheur, 19h33, on ouvre la page Lorient.
Oui, et dans un instant, on aura avec nous Arnaud Huchet, journaliste de Ouest France à Lorient, qui suit évidemment les Merlus avec attention chaque semaine, chaque week-end, chaque match du FC Lorient. Et ce sera le cas dimanche prochain pour les Merlus qui, après la trêve, retrouveront le championnat face au Paris Saint-Germain avec un déplacement au Parc des Princes pour les hommes de Christophe Pélissier. Lorient qui va mieux quand même après sa série depuis la dernière trêve internationale. 11 points sur les 7 dernier match. C'est une équipe de Lorient qui est donc sortie aussi du bas de tableau, en tout cas de la zone rouge, même de la zone orange. Ils sont désormais 16e les Merlus avec 28 points en 29 matchs. Avec nous ce soir donc pour revenir sur ce parcours et pour se projeter aussi sur la suite de l'aventure des Merlus, Arnaud Huchet. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Alors, on le présentait il y a un instant, Lorient est dans la course au maintien en Ligue 1, bien sûr, 16e, 28 points. Est-ce inespéré, finalement, de voir les Merlus dans cette situation-là, après la série de 7 défaites consécutives au cœur de l'automne, l'hiver, qui avait vu les Merlus grandement plonger?
Oui, on peut effectivement envisager les choses sous cet angle-là, puisqu'il y avait effectivement une série de 15 matchs sans victoire. Et puis début janvier, il y avait eu 2 matchs avec 7 buts encaissés. Lorient a resserré les poumons derrière. Il y a eu un mercato d'hiver plutôt efficace avec l'arrivée d'Innocent et Koné qui a permis à l'équipe de se remettre dans le droit chemin avec 4 victoires depuis. Donc là, ils sont plutôt bien calés. Maintenant, il faut, vu le retard qu'ils ont pris l'automne dernier, il faut garder ce rythme jusqu'à la fin de la saison.
Alors comme l'année dernière, c'est un petit peu quand Lorient était au plus mal que Lorient s'est relevé face à des grosses écuries aussi, parce qu'il y a quand même une victoire contre Lens, un nul gratté à Monaco. C'est assez étonnant de voir Lorient se relever comme ça. L'année dernière, on l'avait vu contre le PSG aussi.
Oui, alors c'était plus flagrant l'année dernière. C'était vraiment une bascule qui s'était opérée D'un coup d'un seul avec la victoire contre Dijon et le PSG. Là, il y a eu la victoire contre Lens, le nul à Monaco, mais il y a une défaite derrière à domicile contre Montpellier. Il y a eu une autre défaite lourde, celle-ci contre Lyon, toujours à domicile. Or, l'année dernière, les Merlus avaient construit leur maintien vraiment sur la phase retour avec leur parcours à domicile. Là, c'est un petit peu différent parce qu'ils n'avaient pas gagné depuis un an à l'extérieur. Et puis, il y a eu depuis deux victoires à Brest et Clermont. Qui ont vraiment fait beaucoup de bien dans les têtes, je pense.
Ouais, ces victoires qui étaient presque inattendues parce que, bon, on se doutait bien que la série à l'extérieur allait s'arrêter un jour ou l'autre, mais ça faisait presque un an et demi que Lorient n'avait plus gagné en déplacement. C'est vrai que ces succès-là à Brest et Clermont, en plus Clermont un concurrent, ça donne du baume au cœur de gagner ces matchs-là.
Oui, et puis ils ont marqué le coup en faisant ça, en brisant cette série lors du derby hein, à Brest. Ça a dû constituer quand même, comme je vous le disais, un déclic psychologique. Avec depuis ces deux victoires consécutives à l'extérieur. Bon, la prochaine sera plus difficile à aller chercher puisque c'est au Parc des Princes dimanche prochain.
Alors on parle souvent de la saison passée, on le disait il y a un instant, comme motif d'espoir parce que on l'a souvent dit, notamment lors des interviews d'après-match. Est-ce que l'année dernière peut servir un petit peu d'exemple pour rebondir? Est-ce que ce sont vraiment les mêmes ressorts qui seront utilisés et qui le sont déjà pour aller chercher le maintien?
Ils l'ont fait une fois, donc rien ne les empêche de le faire une deuxième fois. Après, c'est deux saisons très différentes, je trouve, avec des joueurs qui n'étaient pas là l'année dernière. Donc c'est difficile de calquer d'une saison à l'autre, de trouver des ressemblances, même si peut-être qu'au final, on pourra dire que Lorient a acquis son maintien sur la phase retour. Mais il ne faut pas oublier non plus le très bon début de saison qu'ils ont fait. Ils étaient, je crois, 5e au soir du 23 septembre. Et l'année des précédentes, c'était pas du tout ça. Ils avaient mal démarré, donc il y a quelques... C'est des saisons qui peuvent se ressembler en certains aspects, mais ce ne sont pas des saisons jumelles non plus, je trouve.
Ouais, c'est vrai que c'est bien différent. Et là, on voit que les Merlus, on le disait hein, l'année dernière, il y avait eu vraiment une bascule tout à fait au mois de janvier. Là, c'est moins net, mais ça va quand même mieux. 11 points sur les 7 derniers matchs pour le FC Lorient. Des victoires à l'extérieur, quelques-unes ou en tout cas quelques points aussi grattés à domicile. Il y a les résultats d'un côté, il y a aussi la production, le jeu de l'autre. On entend souvent les supporters râler un petit peu par rapport au jeu qu'ils réclameraient peut-être un peu plus beau, un peu plus fou, spectaculaire. Est-ce que c'est possible finalement de produire ce beau jeu, entre guillemets, quand on a un tel enjeu aussi de l'autre?
Je crois que c'est pas l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est l'aspect défensif et c'est en cela que Lorient s'est vraiment corrigé et engrange plus de points depuis. En fait, ils ont reconstruit leur socle, ils ont adopté ce schéma en 4-3-3 qui leur permet d'être beaucoup plus solide. Et je pense que moi, le maintien, à défaut de beau jeu, ira sans doute se chercher sur cette efficacité défensive qui doit être couplée évidemment à un réalisme offensif, quoi.
Avec Ibrahima Koné notamment, et ces trois entrées en jeu là qui ont vraiment fait un grand bien aussi à Lorient parce que ça permet d'aller chercher notamment les deux victoires à l'extérieur.
Oui, c'est ça. Et puis, il dans son style très caractéristique, hein, il apporte quand même de la fraîcheur aussi psychologique. On a un terrain de Mofi qui est dans le dur depuis un bon moment. Son apport est vraiment bienvenu sur cette deuxième partie de saison, en espérant que ça puisse continuer jusqu'au dernier match.
Par rapport aux équipes que vous avez pu voir, Arnaud, et notamment celle du bas de tableau, est-ce que Lorient, actuellement en 16e position, est à sa place finalement?
S'ils finissent la saison à cette place, c'est très très bien, vu tout ce qui leur est arrivé cette saison. Oui, je pense qu'ils sont, vu leur parcours à leur place, après, ils pouvaient avoir des ambitions un peu plus légitimes, puisque je vous rappelle qu'ils ont le 12e budget de Ligue 1, ça doit être à peu près pareil au niveau de la masse salariale, donc Lorient pouvait peut-être viser plus haut, mais là encore une fois la priorité est ailleurs, c'est de sauver le club en Ligue 1, et 16e ce serait très bien au final. Ce qui pourrait leur arriver de pire, c'est 19-20, et s'ils accrochent la place de barragiste, ce serait pas forcément un mauvais calcul non plus, puisque il vaut mieux évidemment se sauver avant, mais encore une fois, vu la teneur de leur saison, ce serait pas un scandale qu'ils finissent barragistes.
Ouais, on se souvient, la seule fois où Lorient les a disputés, ça s'est mal passé contre Troyes, mais c'est vrai que bon...
On n'en parlait pas, Gaëtan, mais
c'est bien parfois de rappeler aussi ce qui a pu se passer, parce que faut pas... C'est vrai que quand on joue une Ligue 2, on se dit, bon, allez, ça va passer. On voit que c'est pas forcément tout le temps le cas. Il y aura aussi des confrontations directes, hein, évidemment, qui auront leur importance. On sait que Troyes viendra au moustoir sur la toute fin de saison, notamment. Sur la phase retour, est-ce passe quand même un peu mieux, ces confrontations directes?
Oui, et puis elles vont être vraiment ultra importantes. Hein. Y a Saint-Étienne qui est le prochain adversaire au moustoir. Il y aura Metz 15 jours après. Il y a Reims qui vient aussi, je crois. Ils vont à Bordeaux et les deux dernières journées, c'était déplacement à Bordeaux et réception de Troyes. Donc, si ils font des bons résultats dans ces matchs-là, ils peuvent légitimement ambitionner le maintien. Mais il va falloir le faire.
Oui, faudra-t-il encore gagner évidemment ces matchs-là. Merci beaucoup Arnaud Huchet d'avoir été avec nous ce soir sur Radio Bonheur.
Merci Gaëtan. Au revoir.
Bonsoir.
Merci. Bonsoir.
Merci. Merci.
Une petite pause des déchaînés du football. On se retrouve dans moins d'une minute trente pour parler des Briochins, le stade Briochin qui cartonne.
Retrouvez maintenant à la boutique Radio Bonheur tous les plus grands succès d'Alain Barrière dans un coffret avec deux CD.
Tu t'en vas.
Chansons, 48 succès d'Alain Barrière avec un coffret 2 CD pour 29€. C'est à la boutique Radio Bonheur, en face du centre Leclerc dans le bourg de Pléneuf, à Pléneuf-Val-André, ou en appelant Radio Bonheur au 02 96 63 00 63 du lundi au vendredi.
Magazine des déchaînés du football, 19h43, donc on parle du championnat de national maintenant et de la 3ème division, donc Gaëtan.
Oui, et ça continue de cartonner pour le stade Briochin. Victoire encore vendredi soir, la 5ème de suite pour Saint-Brieuc. C'était à Fred Aubert face à Sedan, 2-0. Le tout avec deux buts de Valentin Lavigne marqués très rapidement, 13ème et 18ème. Et l'affaire était pliée pour les Briochins qui comptent désormais 41 points. Ils sont 8ème, ils ont 17 points d'avance sur la zone rouge. Autant dire que le maintien, c'est bon, il pourrait même être officiel dès le week-end prochain. Et Saint-Brieuc qui n'est même plus qu'à 8 points du podium. Hein. Finalement, ils sont beaucoup plus près du podium que du bas de tableau. Les hommes de Didier Santini, l'entraîneur de Saint-Brieuc que nous aurons avec nous dans un instant. Saint-Brieuc qui, on l'a dit, va mieux. Ça fait 5 victoires de rang, 8 matchs de rang sans la moindre défaite. Pierre, finalement, quand on regarde un petit peu la série, on peut se dire que... Avec un petit peu de mieux au début de la saison, Saint-Brieuc serait peut-être un peu plus haut.
Oui, c'est vrai. Après, je trouve qu'ils sont à plus ou moins à leur place aussi. Je pense qu'un maintien confortable, ils auraient tous signé au début de la saison. Effectivement, ça peut faire naître quelques petits regrets, mais on a l'impression, parce qu'on parlait de Lorient tout à l'heure, comme si, alors le coach lui le dira mieux que moi, mais comme si le fait de gagner enfin à l'extérieur avait un peu libéré les esprits.
C'est peut-être le cas du côté de Saint-Brieuc, on va le savoir tout de suite avec l'entraîneur Didier Santini qui est avec nous ce soir. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Bonsoir.
Quelle série hein, pour le stade Briochin, Didier, 5 victoires consécutives, encore une face à Sedan vendredi soir. Comment expliquer là cette série qui arrive d'un seul coup, parce que sur la phase aller c'était assez compliqué et voilà que tout va mieux maintenant depuis plusieurs semaines.
Bah écoutez, je pense qu'il y avait des bonnes choses à l'aller, mais qu'il n'y avait pas de finalité dans nos résultats.
qu'on a fait des matchs qui étaient vraiment aboutis, mais pas dans le résultat, parce qu'on manquait de peut-être d'intensité, de folie, de vitesse, ce qu'on arrive à mettre maintenant. Les joueurs tiennent beaucoup plus et puis ils se connaissent mieux. Et donc aujourd'hui, ouais, aujourd'hui ça paye, et puis surtout c'est quand même assez mérité, quoi. C'est pas sur les derniers matchs, c'était assez mérité. Donc il faudrait que ça continue. Mais...
Comment justement cette série-là s'est-elle construite ? Est-ce que c'est aussi le fait, comme on le disait, d'avoir gagné à l'extérieur qui a déclenché, qui a eu un effet déclic finalement dans l'équipe, qui a lancé tout le monde ?
Écoutez, moi je pense plutôt qu'elle est partie à l'époque de. Après le match de Guingamp, où on fait un très bon match à Coupe de France et on perd la semaine d'après contre Concarneau 3-0, où on est. On est laminé par Concarneau. On a une ou deux petites portes pour revenir au score quand on perd 2-0, mais on n'est vraiment pas bon, puis eux sont très bons. Et je pense qu'après ce match-là, il y avait le yin et le yang. Il y avait le match de Guingamp, super match, deux transversales, on perd 1-0, puis le match d'après. Et là, après le lendemain, on a une discussion avec le 13, avec tous les joueurs. Et là, on a commencé à avoir des victoires, puisque ça a commencé à enchaîner pas mal, puisqu'on a eu qu'un petit couac, on peut toujours avoir un couac, c'était contre Créteil, où on a été un peu trop plus suffisant contre Créteil. C'est-à-dire qu'on a fait un bon match, mais je pense qu'on était sûr de gagner avant de rentrer sur le terrain, et ça marche pas. Et on n'était pas à 100%, et donc on l'a payé cash, même si c'est vrai qu'on a raté un pénalty pour l'égalisation. Mais depuis ce match-là de Concarneau, il y a une prise de conscience beaucoup plus importante, parce que derrière on a battu Avranches, Boulogne, et puis après il y a eu toute la série au mois de janvier, février, et puis surtout à partir de la victoire à Annecy. Et puis c'est vrai qu'il fallait cette victoire à l'extérieur, où on avait fait vraiment des très très bons matchs à Bourg-Péronas, à Sedan, à Laval. On avait vraiment fait des super matchs, mais il n'y avait rien au bout, on perdait tout le temps, et c'était toujours bis repetita, et journaliste à la fin, coach, c'était super match, vous ne méritez pas de perdre. Ouais, bon, on ne méritait pas de perdre, on a perdu. Et c'était d'être un peu plus dans nos principes, un peu plus costaud tous ensemble défensivement. Je pense qu'aujourd'hui, on défend vraiment très très bien les 11 joueurs sur le terrain ensemble. Ils se trouvent beaucoup plus facilement, ils ont beaucoup plus d'idées communes ensemble pour défendre, on est dur à jouer. Donc, ils prennent du plaisir. Donc ça, c'est le plus important. C'est vraiment, ils prennent vraiment du plaisir en ce moment, depuis vraiment deux mois, quoi. Donc c'est bien.
Est-ce que la raison finalement de ce renouveau n'est-elle pas principalement mentale finalement, quand on regarde un petit peu tout ce qu'on vient de dire ?
Il y a toujours du mental. De toute manière, le sport de haut niveau, c'est le mental joue énormément. Hein. Ça, c'est inévitable. Il fallait passer autre chose. Mais il y a eu ce match de Concarneau. Après, il y a eu aussi à la trêve, on a quand même laissé partir trois joueurs. Donc deux que le club a laissé partir. Et un qu'on voulait pas qu'il parte, mais c'est lui qui a décidé de partir. Et on aurait pu recruter, comme l'a fait beaucoup de clubs, et on a décidé, avec le président, de ne pas recruter, de s'occuper des joueurs qui étaient là. On pensait qu'il y avait de la qualité, qu'il y avait des bons joueurs, il y avait des très bons jeunes joueurs, il y avait des joueurs plus âgés, extraordinaires, et qui encadrent bien tout ça. Et on nous a proposé plein de joueurs. Il y a plein de clubs qui ont pris 3, 4, 5, 6 joueurs à la trêve. On n'a pris personne. Et je pense qu'on a resserré le groupe, on a travaillé, peut-être en retirant le groupe, ça a travaillé encore plus sur le mental de certains joueurs, plus individuellement sur certains joueurs. Donc oui, le mental, quand on est bien dans sa tête et qu'on croit en ce qu'on fait, ça va beaucoup mieux, quoi.
Oui, justement, c'est ça qui peut paraître paradoxal, parce que quand on voit notamment le départ d'Aliou Dembélé, qui était un cadre du milieu de terrain, on pouvait se dire que bon, ça allait peut-être laisser quelques failles, ou en tout cas que ça allait être un sacré coup dur. Finalement, on sent que pas du tout, ça c'est les autres, notamment Benaïm qui rejoue, Ahmad Ali évidemment, ont pris le relais très rapidement.
Oui, mais bon, après, quand Aliou était là, on avait un système, on ne pouvait pas jouer dans certains systèmes, et le fait de partir, ça nous a demandé de changer de système de jeu. Après, Julien, il joue au début, après, il s'est suspendu 8 matchs. Après, il a repris, après, il a eu un petit problème physique au pied, donc on était obligé d'attendre qu'il soit 100% pour. Il ne pouvait jouer que 20-30 minutes. Ahmad, pareil, au mois de janvier, était absent pour les problèmes, des petits problèmes. Mais c'est vrai qu'un joueur comme Ahmad, il a beaucoup appris avec Aliou à l'entraînement, dans l'intensité, dans les cours, dans le pressing, surtout défensivement. Et puis après, ça lui a pinché complètement au moment où il est parti. Et c'est ce qu'on lui a dit. Moi, je leur ai dit, voilà, on est quatre au milieu de terrain, Maël, Julien, Amad et Théo. On va essayer de continuer sur ce système à trois au milieu. On va recruter personne parce que j'ai confiance complètement en vous quatre. Et par contre, on va tourner. Et il faut l'accepter. Et puis, il faut surtout vous éclater parce que j'ai une confiance totale. Vous avez deux joueurs qui sont des joueurs de course avec Julien et Maël. Vous avez un joueur qui est capable de courir, qui est capable de garder très très bien le ballon comme Hamad. Et puis vous avez un joueur qui a une grosse puissance et une très grande taille, qui est capable de très très bien défendre devant la défense et puis d'avoir du jeu long et puis surtout de nous soulager dans certains jeux aériens quand certaines équipes commencent à balancer, quoi.
Ouais, et ça évidemment, donc, ça fait du bien dans notre jeu du Stade Briochin.
Oui. Et puis après, vous avez les jeunes devant et puis surtout les anciens derrière qui sont toujours là, qui ont toujours, si vous demandez à Christophe Carbrat, à Benjamin, les joueurs expérimentés, ce qu'ils pensent depuis le début, mais ils pensent la même chose depuis le début que ce qu'ils pensent aujourd'hui. Mais il fallait que la mayonnaise prenne, donc elle a pris. Donc écoutez, maintenant, je pense qu'on est sauvés, il nous reste 7 matchs. Ouais. J'espère qu'on va continuer, qu'on ne va pas se dire avoir un relâchement complet, ce qui est un peu possible. Mais de ne pas avoir ce relâchement, de dire, ouais, ça y est, on est sauvé à cette journée de la fin, parce que c'est mentalement, c'est vrai que c'est des saisons épuisantes. Mais puis, d'un seul coup, quand tu fais un beau truc, tu te dis, écoute, essaie de terminer le plus haut possible.
Oui, parce et que. Donc, pardon Didier, oui, mais quand on regarde le classement, il y a 8 points de retard sur la troisième place, mais on voit que c'est très serré quand même devant. Et puis on se souvient aussi de Villefranche l'année dernière, qui était dernier à la trêve, qui a finalement fait une superbe phase retour, un peu comme Saint-Brieuc, qui s'est retrouvé troisième à l'arrivée. Ça peut donner des idées peut-être.
Ouais, mais bon, l'année dernière, il y avait vraiment Bastia et Quevilly qui étaient vraiment très très loin tous les deux. Puis derrière, c'était assez serré, ça, il n'y avait pas autant de qualité. Si vous m'aviez dit aujourd'hui qu'on serait à un point de retard sur Châteauroux, vu l'effectif et les joueurs, les salaires, le budget, je vous dirais que pour un club comme Saint-Brieuc, c'est génial. Il doit avoir 4 à 5 fois plus de budget que nous. Mais donc c'est vrai qu'une équipe comme Châteauroux, sur les 3 derniers matchs depuis qu'on les a battus, par une victoire à 7, ils n'ont fait que mâcher les défaites.
Ouais.
Donc c'est vrai que ça leur a mis un coup au moral, alors que je pensais que même après notre défaite, je pensais qu'ils allaient engranger des victoires derrière et qu'aujourd'hui ils seraient à 2, 3, 4 points. Écoutez, il y a Bourg-Péronin ce soir contre Laval.
Oui, Laval après, qui mène 2-0 d'ailleurs à quelques minutes de la fin.
Ah bon, voilà.
À 20 minutes.
Voilà, j'étais pas dedans parce que je travaillais sur mes matchs à moi. Mais donc Laval gagne à Bourg. Moi je pense que ouais, Laval c'est très bien qu'ils gagnent, comme ça quand ils viendront chez nous, ils ont gagné beaucoup de matchs. Mais non, je trouve que Laval c'était une équipe, on a fait un super match là-bas, on n'aurait pas dû perdre, mais c'était une équipe qui était cohérente, qui était bien entraînée, bien encadrée. Avec Concarneau, pour moi c'était les deux équipes qui, au niveau tactique, au niveau mise en place, au niveau animation de jeu, tout ça, c'était pour moi les deux meilleures équipes contre qui j'ai joué. Mais donc ça m'étonne pas que Laval soit là aujourd'hui, mais c'est vrai que ça va faire mal à Bourg de perdre, parce que Bourg on avait un moment je crois 12 ou 15 points de retard. Aujourd'hui si ils perdent ce soir, on n'a plus que 5 points de retard sur eux, donc c'est bien.
Ouais. Ouais, tout s'est resserré effectivement grâce notamment donc à cette superbe série du Stade Briochin. Merci beaucoup Didier Santini.
Prochain match à l'extérieur.
Prochain match, à Bastia-Borgo.
Je vais à Bastia-Borgo, je vais sur mon île.
Un grand déplacement
de retour à la maison pour Didier Santini.
Voilà.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été
Merci
avec nous ce
vous.
Soir.
Passez une bonne soirée.
Merci. Bonsoir.
Merci, bonsoir. Incroyable, c'est Brioche. 19h54, retour des déchaînés du football avec toujours le championnat de national tout de suite et Concarneau.
Exactement.
Après les réclames, c'est plus dur pour Concarneau, mais Concarneau reste quand même toujours bien placé, troisième.
Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama.
Comme le garage de Lionel ou le commerce de Jacques, 2 entreprises sur 3 en France sont des entreprises de proximité. Elles se mobilisent chaque jour pour nous nourrir, nous bâtir un toit, nous soigner, pour créer, innover et embellir notre vie. Chez Groupama, nous sommes convaincus que ces très petites entreprises font de très grandes choses. Alors pour les soutenir, Groupama a créé les Trophées Pro, un concours qui récompense les initiatives locales des petites entreprises. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Plus d'infos sur groupamapro.fr.
J'ai besoin d'un nouveau métier où je me sens utile.
Moi, j'ai besoin d'un nouveau métier où j'ai des responsabilités.
Et nous, on a besoin de vous.
Aide-soignants, infirmiers, éducateurs spécialisés, accompagnants éducatifs et social. Les métiers du soin et de l'accompagnement recrutent. Renseignez-vous sur solidarité-santé.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Chez Poltron et Sofa, c'est la semaine des grandes occasions. La remise de 50% sur la collection printemps, c'est jusqu'à samedi. La remise kilométrique, c'est jusqu'à samedi. La livraison gratuite, c'est jusqu'à samedi. Les grandes occasions chez Poltron et Sofa, c'est jusqu'à samedi. Venez nous voir en magasin.
Poltron et Sofa, autentica qualità. Et voilà.
Qualité authentique. Vérifiez conditions en magasin.
Johnny par Johnny.
Le seul moment où je suis sincère avec moi-même, c'est quand je suis sur scène.
La série documentaire qui va vous plonger dans l'intimité de la légende.
J'oublie que je suis Jean-Philippe Spad.
Johnny par Johnny, le 29 mars, seulement sur Netflix.
Voici Béatrice.
Béa plutôt.
Béa aimerait un nettoyeur haute pression pour sa maison.
Un truc puissant qui dure longtemps.
Mais Béa attend la bonne affaire.
Genre Karcher, mais pas cher.
Alors pour Béa et pour tous les autres, jusqu'au 10 avril chez Monsieur Bricolage, le Karcher K4 130 bars est à seulement 142,90€.
Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul.
Une fissure sur votre pare-brise? Chez Carglass, quand il y a une urgence, on vous trouve toujours une solution. Nos clients nous le disent, c'est rapide et efficace chez nous. En plus, pour toute réparation d'impact ou remplacement de pare-brise, Carglass vous offre un lave-vitre électrique Karcher. Ça nettoie sans laisser de traces. Alors profitez-en, prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. C'est jusqu'au 2 avril.
Carglass répare, Carglass remplace.
Détails de l'étude et conditions sur carglass.fr.
Le droit d'aller à l'école, ça vous paraît normal? Et le droit d'avoir un travail alors? Chez Actual, acteur majeur du travail en France, nous travaillons tous les jours pour vous garantir ce droit. Travail intérimaire, recrutement, accompagnement vers l'emploi, formation. Avec Actual, construisons ensemble votre travail.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Ouais, Claire, j'avoue, j'ai eu le coup de cœur. Il est beau, discret. Avec les enfants, on se sent beaucoup plus en sécurité.
Coucou, amour.
Tu parlais de moi, là?
Bah non, de notre volet de piscine Abri Sud. Oh, t'es jaloux?
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Chute de cheveux, manque de volume, cheveux fragilisés? Adopté par 9 femmes sur 10 l'ayant essayé, Mana et Cap Expert associent levure de bière, kératine et collagène pour la beauté et la santé de vos cheveux. Retrouvez Mana et Cap Expert en pharmacie. Manae, une marque Vitavea. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Merci, merci d'écouter Radio Bonheur avec les déchaînés du football. On n'a pas eu la musique. Voilà. Merci d'écouter Radio Bonheur, 19h58. On parle donc de Concarneau,
oui.
Gaëtan.
Oui, Concarneau qui a été accroché à 7 vendredi soir. Un but partout malgré l'ouverture du score de Donatien Gomis. Concarneau toujours sur le podium, mais ça se complique un petit peu ces dernières semaines. Et pour revenir sur la dynamique actuelle, eh bien nous avons avec nous l'ancien joueur de Concarneau et actuel consultant pour FFF TV, Mathieu Viel. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Gaëtan, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Alors la dynamique elle est un petit peu plus compliquée, on le disait, alors malgré tout Concarneau perd peu, mais c'est 4 nuls et une défaite sur les 5 derniers matchs, ça marque un petit peu le pas.
Ouais, on marque le pas, même depuis 8-9 matchs maintenant on prend pas beaucoup de victoires, les matchs nuls font pas avancer grand chose, donc c'est vrai qu'on perd pas mais on n'arrive pas à faire une série, à prendre les 3 points et enchaîner, et ça revient fort derrière, donc ça va être palpitant jusqu'à la fin de saison.
Alors qu'est-ce qui explique justement que ça marque un peu le pas? On sait que bon, Stéphane Le Mignon s'appuie sur une ossature de joueurs pas resserrée, mais c'est souvent on va dire le même 11 qui débute, il y a vraiment un 11 type. Est-ce qu'il y a un peu de fatigue? Est-ce que c'est de l'usure mentale? Comment expliquer cela?
Bon, il y a différents paramètres, il y a en effet le fait qu'on n'ait pas une grosse profondeur de banc, il y a l'absence de Rabillard, sans faire offense à évidemment ceux qui jouent aujourd'hui, mais l'absence de Rabillard nous fait très mal. Parce que c'est vrai que sur le front de l'attaque, il pesait énormément et il permettait à Lekoumisti de récupérer les miettes. Là, aujourd'hui, Lekoumisti est un peu esselé dans l'axe et du coup, on pèse moins sur l'adversaire et on marque moins de buts et donc on gagne moins de matchs. Voilà. Et puis, il y a aussi, en effet, les adversaires aussi qui nous jouent autrement, qui nous attendent aussi. Donc, voilà, on est confronté à plusieurs difficultés pour finir, mais on est encore dans le match.
Oui, parce qu'on voit que Annecy, Bourg-en-Bresse, Villefranche, ces équipes-là aussi ont eu un coup de mou à un moment donné dans la saison. Est-ce c'est normal finalement que Concarneau l'ait aussi ce coup de mou-là?
Bah, fallait s'y attendre de toute façon. Après, c'est dommage de l'avoir quand on est à la dernière ligne droite. Donc voilà, faut enchaîner. On a un gros match à jouer vendredi. Si par bonheur on pouvait prendre les 3 points vendredi devant notre public, ça remettrait une dynamique pour bien finir. On est dans le sprint final, donc c'est vrai que c'est pas le meilleur des moments pour flancher, mais en tout cas, le groupe, ça bosse, ça va finir par tourner à nouveau en notre faveur.
Ouais, justement, c'est Bourg-en-Bresse, hein, le prochain match vendredi. Il y aura aussi Laval, 2 matchs plus tard. C'est peut-être là, finalement, que tout va se jouer pour Concarneau. En tout cas, une partie de ce sprint final.
Ouais, après, il y aura encore quelques points à chercher, mais c'est vrai que là, sur les 3-4 matchs qui viennent, on sera forcément fixé puisqu'on aura joué Bourg, on aura joué Laval. Derrière, on a aussi des matchs à l'extérieur où il faudra aller gratter des points. Là, je vous dis, on est dans le sprint final, donc on est encore dans le coup. Le résultat de ce soir, finalement, c'est pas un mauvais résultat pour nous, finalement. Voilà, on va laisser Laval prendre la tête et puis derrière, ça permet à Bourg de pas prendre 2 points ce soir. Donc voilà, faut positiver. Les points sont chers, tout le monde s'accroche, donc on sera pas les seuls à être accrochés sur les prochains week-ends.
Est-ce qu'il suffirait finalement d'avoir une seule victoire pour que la machine redémarre?
Ah, pour que la machine redémarre, oui, après elle n'est pas enrayée non plus, mais c'est vrai que pouvoir enchaîner et prendre 3 points, ça permettrait aussi de redynamiser un peu tout ça, puis de, voilà, au niveau des têtes, faire du bien aussi, que ça cogite pas trop longtemps, quoi.
La force quand même de Concarneau, c'est d'avoir un groupe qui refuse de perdre, parce que sur cette série plus délicate, il n'y a qu'une seule défaite finalement.
Ouais, bah on est costaud. Alors, faut voir les stats, on prend pas beaucoup de buts, on est l'équipe qui avons la plus de possession du championnat, donc forcément, plus on a le ballon dans les pieds, moins on est confronté à subir les assauts des adversaires. Donc on est solide, on prend pas de buts. Après, là, on a du mal à concrétiser nos actions. Donc, c'est des petits scores, c'est des 0-0, c'est des 1 partout. Et on n'arrive pas à faire le break pendant le match. Et du coup, on prend un point et on avance moins vite.
Ouais, ça avance moins vite. Mais malgré tout, c'est vrai, hein, avec la défaite de Bourg qui se profile ce soir, eh bien, Concarneau reste 3e du championnat et toujours pleinement dans la course à la montée en
à combien de points
en
du
Ligue
2 deuxième
à un petit point, seulement d'Annecy qui est deuxième. Donc, c'est vrai que le fait que tout soit serré, ça promet quand même, Mathieu, un sacré suspense, sans doute jusqu'au bout.
Ouais, je pense que ça, il y aura, à mon avis, rien d'acquis avant les 2 dernières journées, ou alors il faudrait vraiment qu'une équipe fasse une série incroyable et que les autres s'écroulent, ce que je crois pas. Donc, à mon avis, jusque dans les 2 derniers matchs, on sera au coude à coude avec nos concurrents.
Eh bien, on va suivre ça de près, évidemment, le parcours des tauniers de Concarneau. Merci beaucoup, Mathieu Viel, d'être venu nous voir ce soir.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir à tous. Merci.
Bonsoir.
Merci.
Au carillon de Radio Bonheur, il est 20h passé, même 20h03, tout de suite les infos, les déchaînés du football reviennent dans un petit peu plus de 2 minutes, on continuera de parler du championnat de National 2, notamment de Saint-Malo, et on parlera aussi évidemment de Guingamp, notamment en National 2, et la suite du programme, vous la connaîtrez après les infos, à tout de suite.
Bonsoir à tous. Pour le pouvoir d'achat, il n'y a pas de solution magique. C'est ce que dit Emmanuel Macron en marge de son déplacement à Dijon. Le président candidat a répondu à un Français qui a témoigné devenir un salarié pauvre, reprochant au chef de l'État de ne pas mesurer les difficultés que rencontrent certains de ses concitoyens. Emmanuel Macron a rappelé le contexte international relatif à la guerre en Ukraine et estimé qu'il n'y ait pas de solution magique. Côté fait divers, c'est un drame absolu qui a marqué plusieurs familles de ce tout petit village de Mayenne. Ce dimanche, en fin d'après-midi, dans la commune de Nauh, au nord-est de Laval, un jeune homme âgé de 25 ans s'est aspergé d'essence et immolé par le feu à son domicile. Il n'a pu être sauvé par les secouristes. Pire encore, plusieurs personnes, dont certains étaient à l'aire de jeu située juste en face de cette maison, ont vu la compagne de la victime sortir du domicile, elle aussi en feu, en hurlant. Plusieurs habitants qui profitaient du soleil dans cette rue calme ont tenté de lui porter secours en l'allongeant sur le trottoir. D'importants moyens de secours ont ainsi été déployés. Une enquête a bien sûr été ouverte. Pour l'instant, c'est non. Le chef de la diplomatie russe jugeait ce lundi qu'une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky serait pour l'heure contre-productive. Il l'a conditionné à l'adoption des exigences russes dans les négociations alors que la guerre se poursuit en Ukraine. Selon les autorités de Mariupol, 5000 personnes, dont 210 enfants, auraient été tuées par les bombardements russes. Par ailleurs, c'est au niveau des infrastructures que les pertes sont les plus importantes. C'est ce qu'a indiqué la ministre ukrainienne de l'économie, Yulia Svyrylenko, avec près de 8000 km de routes endommagées ou détruites, ainsi que des dizaines de gares, des aéroports, pour un montant de 108,5 milliards d'euros. 10 millions de mètres carrés de logements et 200 000 voitures ont été détruits en plus d'un mois. Fin de citation. En sport et en football, les supporters de l'Olympique de Marseille seront interdits d'accès au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne samedi pour le match de la 30e journée de Ligue 1 opposant l'OM à l'AS Saint-Etienne. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la préfecture de la Loire.
Retour du magazine des déchaînés du football en direct jusqu'à 20h30. Comme promis, on parle du championnat de National 2 puisqu'on a joué en National 2 ce week-end et notamment Saint-Malo.
Oh oui, c'était un match très très important à Marville entre l'US Saint-Malo et Granville. Il y avait un point d'avance pour Granville avant la rencontre. Saint-Malo qui avait l'occasion de poursuivre son opération remontée. Ça a été fait dans une immense douleur. Victoire 1-0 des Malouins sur l'équipe de Granville. Un but en solitaire d'ailleurs de Vdaouche à l'heure de jeu qui a délivré le millier de spectateurs du stade de Marville. Et l'entraîneur Gwen Corbin, voici la première réaction du nouveau coach malouin, hein, qui, souvenez-vous, qui est arrivé il y a quelques semaines pour redresser le navire des Corsaires. Il est en train d'y parvenir, mais il n'y a pas eu franchement la manière samedi soir contre Granville, et franchement il n'en avait que faire. Écoutez.
Il faut retenir les trois points. C'est le plus important dans la situation dans laquelle on est. Donc, Granville avait perdu que trois fois à l'extérieur sur 11 matchs. Il ne faut pas l'oublier. C'est quand même une bonne équipe. Et c'est vrai que notre première mi-temps est trop apathique pour leur poser des problèmes. On a vu qu'en deuxième mi-temps, en mettant un peu le réveil, hein, ça a été beaucoup mieux. Et ce qu'on disait aussi avec Abdel, c'est que les joueurs ont beaucoup donné depuis un certain temps. À un moment donné, ils ont le droit de manquer un peu d'essence aussi, je pense. Et donc c'est plutôt... Il faut faire souffler quelques organismes, je pense.
Ouais, ça a pioché du côté de Malouin en fin de match. Et c'est vrai que c'est un match très, très frustrant pour Granville, qui a eu la majeure partie des occasions samedi soir à Saint-Malo. Et il y a eu notamment 2 minutes avant le but Malouin, une barre transversale touchée par les Granvillais. Vous allez entendre un homme qu'on connaît bien sur Radio Bonheur, puisqu'il a coaché notamment Saint-Brieuc et Guingamp. C'est Sylvain Didot qui avait du mal à digérer le scénario de cette rencontre.
Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est... Dans le jeu, c'était bon, on a été au-dessus. Je ne m'attendais pas à dominer le match autant qu'on l'a fait. Après, faut être incisif dans les zones de vérité. On n'a pas eu, il y a eu la barre, il y a eu des situations très dangereuses, des arrêts du gardien, la maladresse, parce que bon, il y en a deux clairs qui doivent filer dedans gentiment. Et puis en plus, sur la seule action où on prend le but, c'est je pense que c'est mal défendu. Ouais, non, j'en ai pas perdu beaucoup des matchs comme ça, mais sauf que cette année, c'est pas la première fois que ça nous arrive.
Et par contre, c'est pas la première fois que Saint-Malo réussit à bien manœuvrer à domicile. Gaëtan, on dit souvent qu'un maintien se passe à la maison. Ça fait 5 victoires sur les 6 derniers matchs de Saint-Malo à la maison.
Ah, c'est une sacrée série hein, pour les Malouins, parce que ben, à domicile, voilà, on sait qu'ils réussissent déjà à avoir cette série-là. Ils s'appuient aussi sur quelques joueurs qui, je trouve, ont tendance ces derniers temps à sortir un peu du lot. Daouche, qui marque but sur but ces dernières semaines, il en fait partie évidemment. Et puis voilà, il y a une nouvelle impulsion qui est arrivée avec Gwen Corbin, l'entraîneur. Et tout cela fait qu'évidemment, ben, Saint-Malo a réussi à sortir un peu la tête de l'eau et n'est plus relégable.
Oui, Daouche qui a marqué lors des 3 derniers matchs à Marville. Comment expliquer ce regain à domicile de la part de l'équipe de Gwen Corbin? Eh bien, voici l'explication de l'entraîneur malouin.
On l'explique tout simplement parce que déjà on sent que le public, on a regagné le public depuis un certain temps, ça nous aide. Les joueurs sont moins dans le doute, ont repris confiance vis-à-vis du public et forcément on sait qu'à n'importe quel moment, on marque des buts à chaque match quasi depuis 6 matchs, enfin depuis maintenant 7, mis à part Guingamp. Donc on sait qu'il peut se passer des choses. Voilà, on a des joueurs devant, que ce soit Zakaria, Steven, Sofiane, Anthony Vermet, Tommy Iba. Bon, c'est des joueurs qui à un moment donné ont quand même le sens du but. Et même dans la difficulté, on sait qu'on arrivera à se créer des choses. Donc à domicile, voilà, avec l'aide du public, on arrive toujours à un moment donné à pouvoir basculer la rencontre en fait.
Et c'est ce qui a donc été fait par l'équipe de Saint-Malo. On continue de parler de ce match, mais plus largement du championnat de National 2, avec un entraîneur qui est ultra concerné par ce championnat. C'est Jean-Baptiste Lebescon, le coach de l'équipe réserve de Guingamp. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir Pierre.
Alors, vous avez fait l'une des belles opérations aussi avec Saint-Malo dans la course au maintien ce week-end, parce que après une série de 8 matchs sans gagner, vous êtes allé l'emporter sur la pelouse de la réserve de Caen 2-0. Quel est votre sentiment aujourd'hui, Jean-Baptiste? On imagine un peu de soulagement d'avoir brisé cette série qui commençait à durer un peu trop.
Oui, alors, à la différence des autres équipes qui jouent le championnat national 2, nous, on a... En tant que réserve, on a d'autres missions aussi. Donc effectivement, vous venez de parler des 8 matchs qui s'étaient déroulés avant. Après, on a aussi joué notre rôle de réserve du mieux possible pour notre équipe professionnelle. Donc c'est pour ça que sur ces 8 matchs-là, on a eu aussi beaucoup d'absents. Donc ce qui fait qu'effectivement, on a peiné à avoir de la régularité au niveau de nos résultats. Donc du coup, oui, on accueille avec cette victoire à Caen face à une autre réserve qui a les mêmes problématiques que nous. De la plus belle des manières, parce que ça nous redonne un peu de marge, mais rien n'est fait.
Alors on reparlera de la saison très particulière que vous avez connue avec la réserve dans quelques minutes. On termine donc sur cette course au maintien hein, qui inclut pas mal de clubs. Allez, on peut aller peut-être jusqu'à Châteaubriand, qui est en chute libre depuis quelques semaines. Châteaubriand 9e avec 29 points. Derrière, on a deux équipes à 28, Poissy et Guingambé. 12e, Saint-Malo, 26. 13e, premier non relégable, Granville avec 24 points, qui voit se rapprocher Romorantin, 21 points. Tout comme Plabennec, qui est en train de retourner peut-être la vapeur dans cette fin de saison. Vitré est dernier avec 20 points. Plabennec qui a battu Vannes, hein, victoire très importante, 1-0 dans le bas du tableau. Vitré qui a fait 2 buts partout. À noter qu'en haut de tableau, grâce notamment à un doublé de Soumano que l'on a vu en Ligue 1 cette année, eh bien, Lorient B n'est plus qu'à 4 points du leader Versailles. Un dernier mot avec Sylvain Didot, l'ancien entraîneur de Guingamp, parce que son Granville est en danger. Ils n'ont gagné qu'un seul de leurs 12 derniers matchs. Il va falloir se secouer du côté de Granville parce que les Bretons reviennent fort derrière. Écoutez Didot.
La course, ça fait bien longtemps qu'on l'a entamée. Moi, j'en ai conscience. J'espère que mes joueurs l'ont en tête. J'en suis pas sûr tout le temps, même si on voit que, vu les efforts faits et ce qu'on a déployé sur le terrain, je pense qu'ils l'ont quand même. Maintenant, se faire violence, je pense qu'il faut qu'on se fasse violence pour se dire ben oui, il faut les terminer, nos actions, il faut les terminer. Ça se travaille aussi la semaine. On n'a pas le buteur ou le joueur qui s'échappe régulièrement pour peut-être la mettre au fond comme les équipes qui sont devant en championnat. Ben voilà, je pense que ils ont quasiment tous nos joueurs offensifs ont eu une situation pour marquer ce soir ou deux. Ben, force est de constater c'est qu'elle ne va pas au fond, qu'on n'a pas le geste juste ou le soupçon de réussite qui fait que, qu'on doit ouvrir le score. Donc même avec un nul, j'aurais été très déçu. Avec une défaite contre un adversaire direct, ça commence à se tendre quand même quand on voit ça.
Ça se tend d'autant plus que Granville, lors de la prochaine journée, dans 2 semaines, accueillera Plabennec. Celui-là, il vaudra très très cher ce match Granville-Plabennec le 9 avril prochain. On a donc la chance d'avoir avec nous Jean-Baptiste Lebescon, l'entraîneur de l'équipe réserve d'en avant. Vous avez commencé à en parler, Jean-Baptiste. C'est vrai que cette saison, elle est étonnante pour vous, d'une part parce qu'on est au niveau de l'équipe première dans un nouveau cycle, notamment avec l'arrivée de Stéphane Dumont, pas mal de jeunes joueurs qui sont arrivés en équipe première, l'épisode du Covid en janvier qui a ramené pas mal de joueurs de la réserve, notamment des défenseurs, avec l'équipe première. Comment vous la vivez, vous, cette saison très singulière, très particulière, Jean-Baptiste ?
Non, mais après, quand on charge une équipe réserve d'une équipe de Ligue 2, on doit s'attendre à devoir s'adapter à ce genre de situation. Alors certes, le Covid, c'est quelque chose de singulier, puisque c'est une situation inédite. Donc le club a été touché, c'est vrai que vous l'avez rappelé avec ce match à Amiens, et donc on a été privé d'une partie ou quasiment toute notre défense, mais non seulement sur ce week-end-là, mais sur le week-end qui a suivi aussi, et sur un match en retard aussi. Donc c'est 3 matchs qu'on n'a pas pu jouer avec les joueurs qui dégagent un peu d'une équipe de titulaires, mais même si on avait des joueurs qui pouvaient pallier et on espérait malgré tout faire des résultats ces week-ends-là qu'on n'a pas réussi à faire. Mais comme je dis, après moi j'ai une fonction première qui est de faire progresser du mieux possible des joueurs que j'ai sous ma responsabilité, de les amener du mieux possible vers l'effectif professionnel. Donc cet épisode de Covid, je l'ai aussi vu d'un bon oeil finalement, parce que ça a permis à certains de mes joueurs de se montrer sur un match de Ligue 2, et puis certains ont plus tiré un peu leur épingle du jeu. Donc c'était aussi quelque part quelque chose de positif.
Alors on pense notamment à Mathis Rioux, hein, qui a été installé sur cette défense remaniée à Amiens et qui n'est quasiment plus jamais sorti du 11 de Dumont, notamment avec l'instauration de la défense à 3 et puis aussi par ses prestations. Est-ce que vous êtes surpris de la place qu'ont pris les jeunes cette saison, durablement pour certains, dans l'équipe première ?
Surpris, non. Après, je crois qu'il y a différents façons que cette année, les jeunes ont la possibilité de s'exprimer. Je crois que c'est avant tout l'arrivée de Stéphane Dumont qui fait qu'il a laissé une place aux jeunes joueurs, et à ceux qui le méritent et à ceux qui le prouvent par leur investissement au quotidien, de pouvoir s'exprimer en Ligue 2. Alors certes, certains ont profité de circonstances favorables, mais pour connaître un peu plus Stéphane maintenant, il fait pas de cadeau non plus. C'est les jeunes qui ont saisi leur chance. Et je pense que l'arrivée de Stéphane Dumont a grandement participé à ça, parce qu'il a eu, il a pas eu peur, loin s'en faut, de les lancer dans le grand bain et de leur faire confiance.
Vous pensez que certains jeunes sont partis pour être partie prenante maintenant de l'équipe première sur, allez, 1, 2, 3 ans peut-être?
Je l'espère, moi, de mon point de vue de formateur, pour les avoir eu. J'étais déjà persuadé qu'ils pouvaient apporter quelque chose au groupe professionnel dans la vie de tous les jours. Et ça, j'en avais fait part à Stéphane le jour où il est arrivé, où il a signé au club. Maintenant, je crois aussi que c'est ce qui doit faire la force des Guingamp dans les années à venir, de pouvoir avoir des jeunes qui progressent en enchaînant les matchs de Ligue 2 et qui deviennent petit à petit, à l'image de Baptiste Roux ou encore plus récemment de Mathis Rioux, qui deviennent peut-être des titulaires dans les saisons à venir. Je crois que c'est ça qui fera la force du club et du renouveau de Guingamp.
Vous parlez de renouveau, justement, je voulais rebondir là-dessus. Après des saisons très chaotiques et mouvementées ces dernières années, qu'est-ce qui a changé cet été ou cette saison dans le fonctionnement global du club, et notamment cette fameuse, je crois que c'est le président Legrand qui en parlait, la passerelle entre l'académie, la réserve et les pros? Qu'est-ce qui a changé dans tout ce fonctionnement?
De façon très concrète, qui a changé, bon, déjà le coach qui est arrivé, la personne de Stéphane Dumont, c'est quelqu'un de ma génération, donc c'est peut-être, quand vous parlez de passerelle, plus facile aussi d'échanger au quotidien, de discuter, d'émettre ses opinions. Après, concrètement, on a aussi, et Stéphane a souhaité installer aussi des passerelles plus favorables avec des entraînements en commun et notamment des entraînements spécifiques auxquels j'assiste également parce qu'il le souhaitait. On a aussi fait des séances entières pour participer à la préparation du match de Ligue 2 avec l'équipe réserve. Donc tout ça, c'est des choses qui sont nouvelles que Stéphane a voulu mettre en place et qui favorise grandement effectivement cette passerelle et cet échange qu'il peut y avoir entre ces deux groupes d'entraînement.
Dernière question, Jean-Baptiste Lebescon, sur vous, parce que on avait vu votre nom sortir il y a quelques semaines, notamment par rapport à Saint-Malo. Où en êtes-vous dans votre parcours, dans votre carrière à Guingamp? Ou est-ce qu'il y a des envies peut-être un jour, à court, moyen ou long terme, de prendre une équipe première?
Il est venu justement par rapport à cette réflexion-là, qui est ma réflexion, qui est de savoir quel est mon chemin et vers quoi je vais m'orienter dans les saisons à venir et pour mon futur. Donc aujourd'hui, je suis très content de former, de post-former pour mon club formateur. Après, il me fallait aussi discuter avec mon club et savoir vers quoi on s'orientait à l'avenir, même si on ne peut jamais savoir de quoi va être le futur. Mais il y a eu cet épisode de Saint-Malo, j'ai rencontré des gens, de très belles personnes qui aiment par-dessus tout leur club et qui ont beaucoup d'ambition pour leur club. Maintenant, comme je me suis exprimé aussi dans la presse, j'étais sous contrat avec mon club formateur, le club qui m'a offert cette reconversion. Donc je suis quelqu'un qui respecte mes engagements et le contrat que j'ai, donc il n'était pas question d'aller au clash, si on peut dire, et de forcer la main. Et puis après, les dirigeants de Saint-Malo m'ont montré beaucoup de considération, mais mes dirigeants à Guingamp l'ont fait de même quand il y a eu la sollicitation Baldwin. Donc voilà, c'est surtout une réflexion par rapport à mon parcours personnel et voilà ce qu'on va faire dans les années futures.
Eh bien, on suivra ça avec grand intérêt. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Lebescon, d'avoir été avec nous. Bonne fin de saison.
Merci.
Avec en avant. Et bonne soirée. Merci.
Merci, bonsoir.
Cyril Lignac, selon vous, comment faire pour cuisiner plus responsable?
Alors d'abord, on peut sélectionner des produits locaux et de saison. Ensuite, il faut choisir des ustensiles de cuisine qui durent et qui produiront donc moins de déchets. Et avec la gamme en alu 100% recyclé de Tefal, je sais que je réduis mon impact pour la planète et ça, c'est cool.
Jusqu'au 15 avril chez Intermarché, en échange de vos anciennes poêles, casseroles ou autocuiseurs, bénéficiez jusqu'à 50% de remise sur la gamme La Recyclée de Tefal, fabriquée en France.
Ah, j'ai trop envie de me faire un voyage.
Ça tombe bien, pour le printemps, EasyJet nous fait une fleur.
Jusqu'à lundi minuit, EasyJet vous offre jusqu'à moins 20% sur 200 000 sièges. Conditions et réservations sur easyjet.com.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Le bonheur, c'est quand je suis sous ma pergola Abri Sud. Grâce à elle, ma pièce préférée, c'est mon jardin. Toit ouvert ou toit fermé, je profite de la vie en extérieur toute l'année. Voilà, c'est ça mon bonheur Abri Sud.
Abri Sud.
Le bonheur plein sud.
Il y a des milliers de raisons de s'engager.
Moi, j'ai choisi de m'engager pour vous protéger.
En rejoignant la réserve opérationnelle de la police nationale, je me sens utile.
C'est simple, rémunéré et près de chez moi.
Je gère mon emploi du temps comme je veux, jusqu'à 90 jours par an.
On m'a formé à intervenir sur la voie publique et je suis toujours encadré par des policiers. Ensemble, nous assurons votre sécurité.
Vous avez plus de 18 ans, engagez-vous.
Devenez réserviste de la police nationale.
Détails et inscriptions sur police-nationale.intérieur.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
La dernière ligne droite du magazine des déchets et du football à 20h24. On continue de parler de Guingamp et plus précisément des Calonnes, messieurs.
Ah oui, parce que ça faisait un moment que nos amis Calonnes n'avaient plus occupé l'espace de l'émission des déchaînés du football. Bonsoir Arnaud Toudic.
Salut Pierre, bah oui, ça fait longtemps. Bah, on arrive à se croiser, mais pas sur l'antenne de Radio Bonheur.
Je l'avais promis lors du dernier match que cette prime
serait consacrée. Ah oui, voilà, c'est bien, tu tiens tes promesses.
Alors, d'ailleurs, Arnaud Toudic, désormais co-président des Calonnes depuis le mois de janvier. Expliquez-nous tout ça.
Le mois de novembre, même, quand on a fait notre assemblée générale. Alors, on a voulu ouvrir un petit peu, agrandir l'équipe. On a recruté, comme dans le football, On a eu quelques transferts et donc le conseil d'administration est passé de 10 à 15 personnes. Et ça nous a permis de mettre des commissions en place, et une coprésidence, parce que je pense que dans une association, il faut passer la main au bout d'un certain temps pour garder une dynamique. Et puis donc j'ai un coprésident et Yves Olivreau qui est aussi évidemment Calombe et qui nous aidait déjà depuis un certain temps dans l'association et qui a pris le train en marche.
Dans une année très importante pour les Calonnes, pour le club, puisque c'est l'année des 110 ans, des 50 ans aussi de l'épopée de 73, vos 5 ans aussi, il me semble, des Calonnes. Quel est le programme, quelles sont les grandes lignes du programme à venir, Arnaud?
On a plein de choses. C'est vrai que le Covid avait freiné quand même pas mal d'événements. On se voyait plus parce qu'on n'allait plus au stade. On arrivait à avoir des contacts sur les réseaux, mais c'est vraiment pas la même chose. On est heureux déjà de retrouver tout le monde, une équipe déjà aussi, un stade et puis des jeunes qui jouent dans le club. Et puis nous, on va mettre des choses en place comme tous les ans. On avait continué aussi avec notre soutien aux hôpitaux, notamment aux soignants pendant le Covid. Et puis là, on va remettre la Redadec en route. C'est un projet pour la langue bretonne qu'on avait déjà soutenu il y a 2 ou 3 ans. On va permettre aux Calombes de courir à travers toute la Bretagne. Donc ça va être sympa. On a en lien avec l'anniversaire d'En Avant de Guingamp et l'épopée en Gambardella, on va essayer d'organiser c'est un projet, c'est pas totalement validé encore, mais ce qu'on appellerait la Calombe Cup. Qui serait un match caritatif avec des anciens joueurs, des anciennes gloires d'En Avant et des anciens joueurs, peut-être les vainqueurs 2009 ou les vainqueurs 2014, mais aussi plein d'autres joueurs qui nous ont déjà donné plus ou moins leur accord. Et on est en train de travailler ça conjointement avec le club. Donc ce sera un super événement.
Vous savez qu'on a un excellent buteur à Radio Bonheur, la personne de Gaëtan Pinel.
Mais je parle d'anciens anciens joueurs d'En Avant professionnels. Je sais que Gaëtan est un très bon buteur, mais je parlais de ceux qui ont porté, qui le samedi soir étaient sur le terrain, pas dans les tribunes.
Voilà. C'est vrai, ils sont plus adroits que moi, sans doute.
Pourtant, mais autour de Coupe Rouge, quel joueur Gaëtan Pinel, incroyable.
Voilà. Non, mais ça pourrait être un super événement avec plein d'anciens joueurs. Donc. De toute façon, on associera Radio Bonheur à l'événement. Mais on a plein d'autres choses à mettre en place. On espère en fin d'année aussi réussir à réouvrir les Calonnes, la cotisation Calonnes, puisqu'on a énormément de demandes. Alors des fois, c'est des gens qui avaient loupé l'occasion, et puis d'autres qui disent moi j'ai eu des enfants, ou d'autres qui ont des petits-enfants, des grands-parents qui nous disent. Et puis le projet leur plaît, et puis ils ont envie de rejoindre la grande famille des Calonnes, donc c'est possible qu'on ouvre à nouveau les Calonnes et agrandir le mur du coup.
Et une question qu'on a posée aussi à Jean-Baptiste Lebescon tout à l'heure, qu'est-ce qui a pour vous changé depuis cet été, après des années compliquées au niveau au niveau sportif et structurel au club? On sent que le cadre s'est apaisé du côté des Calonnes. Est-ce que vous avez des retours aussi de gens qui s'identifient davantage, ou on ne voit que par le prisme des matchs et on voit que cette équipe n'arrive pas à se mêler à la lutte pour la Ligue 1? Quelle est l'ambiance que vous arrivez à ressentir, vous, de votre position?
Alors nous, on a été en lien toujours avec le club lorsque Bertrand était là ou quand Fred est arrivé. On s'est très vite rencontrés. Enfin, on se connaissait avec Fred depuis très très longtemps. On a échangé. Nous, on remonte, moi, ma mission président aujourd'hui, co-président des Calonnes, c'est de remonter les infos aussi que les Calonnes nous transmettent par mail ou quand on se rencontre. Donc on leur avait remonté un petit peu tout ce qui... Et on en avait discuté ensemble, l'état d'esprit, etc., qui ne collait plus. On avait perdu un petit peu les valeurs d'En Avant. Alors ça veut dire quoi, les valeurs d'En Avant? Ça veut dire faire des choses simples. Alors comme j'avais dit au président, quand on a des sous, on réfléchit plus, on recrute, et quand on n'a pas de sous, on regarde du côté de notre centre de formation. Continuons à faire ce qu'on a fait pendant des décennies, c'est de regarder autour de nous dans notre centre de formation, faire des recrutements intelligents. Un gars comme Stéphane Quimper, on voit aujourd'hui tout ce qu'il nous apporte. C'est un nom qu'on leur avait soufflé depuis très longtemps, un jeune qui était passé par En Avant, qui est du coin. Dans les valeurs d'En Avant, on a toujours eu besoin d'avoir, et c'est le point commun souvent des équipes qui ont réussi à Guingamp, des joueurs qui représentent le territoire. des Coco Michel, des Michel Trémel, pour aller plus loin encore, ou bien d'autres, les frères Carnot ou Christophe Carbrat. Voilà, on a besoin d'avoir un petit peu de quota de Bretons, entre parenthèses, sans mauvais jeu de mots, mais nous, supporters, on a besoin de s'identifier à ça. Et aujourd'hui, on retrouve ça. Et comme par magie, on retrouve aussi l'état d'esprit de l'équipe. Donc, lors de l'Assemblée Générale, on avait invité Yvon Schmitt, Coco Michel et Jérémy Sorbon à échanger sur pourquoi, à différentes époques, ces trois exemples avaient réussi. Et il y avait quand même plein de points communs. Et aujourd'hui, on retrouve un petit peu ces points communs-là. Donc, nous, on est heureux. On discute avec Fred Legrand, mais aussi avec le CA d'en avant. On remonte ce qui est bien, moins bien, ce qu'on pourrait améliorer. Donc voilà, continuons comme ça. On a un entraîneur qui a des belles valeurs aussi, donc on va essayer d'aller le plus loin possible.
Merci beaucoup Arnaud Toudic d'avoir été avec nous une nouvelle fois sur Radio Bonheur, et la prochaine fois ce sera avec les deux présidents.
Bah oui, bien sûr, il était dans le train, Yves. Donc voilà, non mais avec plaisir, quand vous voulez. On a plein d'autres projets encore, allez voir sur notre site calonde.bzlh. Et puis ouais, on est encore plus nombreux cette année à renouveler les cotisations et tout ça, donc c'est très bien. Et on peut le faire toute l'année. Voilà.
Longue vie au Calonne. Merci Arnaud d'avoir été avec nous. Bonne
merci.
Soirée. Merci.
Salut.
Bonsoir.
Canabo.
20h31. Alors, Pierre, on dit les Calonnes ou les Calons?
On m'a toujours dit Calonne.
Calonne, mais prononcé à la bretonne un peu, les Calons.
Oui, je crois que
Calonne. Calonne, comme s'il y avait un D à la fin. Calonne.
Alors, une fois, j'avais entendu Caloun.
Là, c'était une erreur, je crois.
Je pense que tu étais en fin de soirée. Mais
c'était plus le même contexte.
Non, plus trop.
Merci, messieurs. Bonne soirée à tous. On va se quitter là. Prochain rendez-vous avec les déchaînés du football demain matin, la rubrique à 8h38. Et puis, on rappelle les prochains rendez-vous pour les matchs de foot. Guingamp jouera samedi soir, hein, c'est
oui,
ça.
Oui, déplacement à Nîmes à 19h pour Guingamp, pendant que Brest se déplacera à Montpellier le lendemain, dimanche donc à 15h, et Lorient dimanche aussi, mais à 20h45 pour le match face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes.
Match de gala pour les Merlus. Bonne soirée à tous.
Bonsoir.